Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La COP29 qui s'est tenue à Bakou a été marquée par des discussions intenses sur le financement climatique, la justice environnementale et la transition énergétique. L'autre fois, nous avons parlé dans une première partie de la perception et aussi du bilan à tirer de cette COP29 en Afrique. Aujourd'hui, nous allons également parler dans la même dynamique, de manière beaucoup plus large, sur les perspectives également des COP à venir. Si certains d'ailleurs progrès ont été réalisés, les résultats restent contrastés face aux attentes pressantes du monde. Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, nous sommes avec François Donneur, président de la Fondation Agroécologie Mondiale, ingénieur chimiste et aussi environnemental, doctorant en gestion des affaires durables. Bonjour à vous, Monsieur Donneur, et toujours merci de répondre à notre invitation.
Bonjour à vous également et à vos auditeurs.
Nous le disions tout à l'heure également, la COP29 s'est tenue à Bakou. Selon vous, quel est le bilan global, positif ou négatif, à en tirer, bien évidemment, de cette rencontre et de ce sommet?
D'abord, le bilan global, il est effectivement contrasté, comme vous dites, mais contrasté de manière qui penche vers la négative, en vue non seulement des objectifs globaux de réduction d'équivalent CO2 qui ne sont pas à même d'être atteints pour le 1,5 degré Celsius en termes de limite, mais aussi ça ne répond pas aux attentes des pays du Sud en termes de financement de la part du Nord global. Voilà.
Et par rapport également à aujourd'hui, à ce bilan plutôt négatif, quel est également le point positif qui est ressorti de cette COP?
Alors le principal point est une enfin, on l'attendait depuis une bonne vingtaine d'années, une harmonisation du marché des crédits et compensations carbone. Et finalement, ce ne sera pas chaque continent qui fait sa petite cuisine dans son coin, ce sera maintenant sous un mécanisme sous l'égide de l'ONU. Il y avait en plus déjà deux méthodologies de l'ONU qui se sont rejointes à la COP29. Et le marché imposera aussi aux porteurs de projets de crédit carbone d'identifier, de traiter les éventuels autres impacts environnementaux, comme par exemple la biodiversité et sociaux négatifs de leurs projets. Et là, c'est une première. Ils seront aussi invités à expliquer comment leurs activités contribuent aux objectifs de développement durable. Donc ça devrait aider à protéger mieux les personnes lors de projets de compensation carbone. Par contre, selon une experte en politique au sein du Carbon Market Watch, Madame Isa Mulder, elle dénonce un accord détourné, encore un manque de transparence sur, par exemple, ce qu'on appelle les puits de carbone naturels, comme par exemple les forêts. Et ce n'est pas tout le temps de la mauvaise foi de la part de ceux qui émettent les crédits carbone, ça peut être aussi de la malchance, comme par exemple les forêts qui brûlent, et alors qu'on les a mis dans un stock durable, et souvent des fois qui brûlent, comme celle de Californie, pour des raisons justement de changement climatique.
Et vous avez parlé donc tout à l'heure donc des aspects négatifs, tout de suite de l'aspect positif, mais aussi quel est le principal point négatif de la COP29?
Alors, le principal point négatif, déjà, c'était quelque chose qui n'avait pas été suivi suite au sommet de Paris en 2015. La COP29 a finalement décidé que 23 pays développés plus l'Union européenne vont financer 300 milliards de dollars d'ici à 2035, 300 milliards de dollars par année d'ici à 2035 pour soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. Par contre, si on regarde ce qu'on a besoin de faire, le montant a l'air grand, mais si on regarde les besoins pressants des pays en développement, que ce soit en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, Le montant n'est pas suffisant pour la plupart. Et en plus, c'est un mélange de subventions et de prêts. Il y avait des pays comme par exemple l'Afrique qui s'était unie et l'Inde ont demandé une aide de 1 000 milliards de dollars par année. Et les deux ont affirmé que ça ne donne pas les ressources vitales dont ils ont besoin pour s'attaquer véritablement à la complexité du changement climatique. Si je prends l'exemple du Kenyan Ali Mohamed qui parlait au nom du groupe africain, il disait que le financement promis pour 2035 est trop faible, trop tardif et même trop ambigu. La représentante indienne a été encore plus sévère. Shandi Raina a expliqué que la somme proposée est dérisoire et ce qui ne permettra pas à l'Inde de mener des actions climatiques nécessaires à la survie de son propre pays et en fonction aussi de son accroissement démographique. Et selon finalement le journal nigérien The Nation, il y a eu beaucoup de blocages lors de cette COP29 parce qu'il n'y avait pas moins de 1773 lobbyistes du pétrole présents à Bakou.
Et par rapport à ça également aujourd'hui, donc à quoi s'attendre par rapport à cela pour concernant les prochaines COP, notamment la COP30 à Belém, également aujourd'hui par rapport à la situation qui est résultante de ce qui s'est fait, sans oublier aussi la COP au niveau du Brésil attendue en 2025.
Alors justement, ce qui va être intéressant, comme le Brésil est l'hôte et le Brésil est actuellement un pays qui souffre énormément du changement climatique. On voit que l'Amazonie est presque à sec actuellement. Le fleuve Amazon est dans un état déplorable. Il y a aussi, en marge de la COP29, il y a eu déjà une amorce de leadership entre d'un côté le Brésil et de l'autre côté le Royaume-Uni pour améliorer les programmes énergétiques et de réduction en carbone. Donc on espère que le leadership brésilien va bien aider cette fois-ci pour la COP30. Et aussi, il y a actuellement une quinzaine d'États qui ont chiffré déjà leur performance en termes de changement climatique de réduction carbone de 2024 par rapport à 2015. Tous les pays devront le faire pour le premier semestre 2025 et là on pourra bien voir l'an prochain où on en est vraiment par rapport à la vision 2030 et 2050 pour réduire l'empreinte carbone, améliorer l'énergie, améliorer la déforestation, donc réduire la déforestation dans les différents pays du monde. Là, on aura enfin véritablement l'heure juste. Et aussi, on pourra vérifier les modalités de la meilleure prise en compte de la volonté des peuples indigènes de s'approprier aussi la maîtrise du climat, qui sont aussi, ils sont 5% de la population mondiale, mais ils préservent 50% de la biodiversité dans le monde. Et donc, bien sûr, du climat.
Et aujourd'hui également, au-delà même de ces, indépendamment même de ces palabres, des COP, quels sont aujourd'hui les bons exemples ou projets majeurs en Afrique dans ce domaine?
Alors on peut citer un excellent exemple qui nous vient du, j'espère que je prononce bien, du Niger. Mmh. Voilà, il y a 300 000 hectares qui ont été sauvés, qui étaient sauvés du désert en 10 ans. Et pour restaurer ces terres arides et désolées, il y avait une myriade de demi-lunes qui ont été créées par des paysans locaux et qui ont permis une revégétation de pousser, aux arbres de s'épanouir, de l'eau de revenir dans l'endroit et les sols ont été réhabilités par la renaturation humaine. Ça permet aussi, cette restauration directe d'un hectare profite en plus à 3 hectares parce que ça protège 3 fois plus tout l'environnement des effets des vents du désert. Donc c'est très bon pour le Sahel. 900 000 hectares ainsi sont gagnants en 10 ans avec une température, et ça c'est intéressant en termes de mitigation aussi par rapport au changement climatique, une température inférieure de 5 à 9 degrés par rapport dans les zones restaurées par rapport aux terres arides voisines. Et tout ça grâce à l'agroforesterie et ça permet aussi en restaurant non seulement la gestion de l'eau et de la production de nourriture, de permettre la subsistance de 1,5 million de personnes sur place. Donc c'est du gagnant-gagnant et c'est de l'appropriation locale et je pense que c'est de plus en plus ce genre de projets locaux, donc moins de palabres, beaucoup plus d'action. On n'a pas besoin aussi d'avoir des grandes machines, de la technosolutionnisme. On a besoin vraiment de l'appropriation, même de retrouver des techniques ancestrales pour y arriver.
Mais aussi, François Donneur, la question que je serais tenté aussi de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté un peu l'inaction sur la sortie des fossiles par rapport à la COP29, parce que contrairement à la COP28, cette COP n'a pas inclus d'engagement clair sur la fin de l'utilisation des énergies fossiles en raison de résistance de plusieurs pays producteurs. Que pouvez-vous nous en dire également, vous, en tant que chimiste aussi ?
Alors, oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des résistances, je dirais, aussi. On voit le lien avec les lobbyistes pour des raisons politiques, mais il y a j'ai toujours un espoir et on le voit d'ailleurs actuellement, même dans des endroits qui croyaient dur comme fer aux fossiles comme au Texas, aux États-Unis qui est pourtant producteur de pétrole, ou comme les coûts de l'électricité, c'est maintenant les panneaux solaires avec le stockage de batterie qui est moins cher. Que produire à travers des fossiles, l'économie va rattraper et aider l'écologie. Donc malgré des volontés politiques d'aller dans l'autre sens, de vouloir même à la limite boycotter les énergies renouvelables, il y aura de plus en plus, uniquement par le phénomène de l'amélioration technologique des énergies renouvelables, les prix au niveau du solaire ont baissé de 10 fois en 20 ans. Il n'est pas sûr que ça va baisser encore de 10 fois dans les prochaines 20 années, mais en tout cas, ça va encore baisser. Et de toute façon, maintenant, c'est l'énergie la moins chère et qui compétitionne très bien par rapport aux fossiles qui sont maintenant beaucoup plus chers, même par rapport aux autres énergies renouvelables comme l'éolienne, qui est moins chère aussi que le fossile. Et là, il y a des possibilités, que ce soit en Afrique et on a vu au Danemark, par exemple, où l'éolien est extrêmement rentable. Et surtout par rapport au nucléaire, qui maintenant, le nucléaire est une énergie centralisée, qui est l'énergie la plus chère au monde. Et je pense que pour l'Afrique, comme pour l'Amérique du Sud, on aura besoin de plus en plus de pouvoir avoir accès rapidement à de l'électricité décentralisée et écologique, et c'est ce qu'apporte le solaire.
C'est ce qu'apporte le solaire, mais également ce sont les précisions que vous avez bien voulu nous donner sur le bilan à tirer, notamment sur le plan mondial de cette COP29 qui aura tenu en haleine le monde climatique avec ses conséquences également. Encore une fois, merci à vous François Donneur. Je rappelle que vous êtes donc président de la Fondation Agroécologie Mondiale. Vous êtes aussi ingénieur chimiste et environnement, doctorant aussi en gestion des affaires durables. Autant de qualificatifs qui aujourd'hui montrent les compétences vous faites montre. Merci encore à vous, Monsieur Donneur.
C'est avec plaisir et à la prochaine.
Merci également à vous, chers abonnés et amis de la durabilité, dans la confiance durable que vous nous accordez dans votre émission. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.